Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série très importante concernant le salut. Nous sommes à l'étude de, je crois, 19. Et nous donnerons comme titre pour ce matin « Jésus est vivant ». Jésus est vraiment vivant. Il est ressuscité. Alléluia. À Moscou, dans le mausolée de la Place Rouge, repose le corps embaumé de Lénine. Le cercueil de verre dans cette tombe a été regardé par des millions de visiteurs. On lit sur l'épitaphe: il a été le plus grand chef de tous les peuples de tous les temps. Il fut le seigneur d'une nouvelle humanité. Il fut le sauveur du monde. Cet hommage à Lénine est écrit au passé. Quel contraste avec ces paroles triomphantes du Christ. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Saint Jean, chapitre 11, verset 25. Le fondement de notre foi en Jésus-Christ est sa résurrection. C'est ça le fondement. C'est la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Karl Barth, le grand théologien suisse, a dit qu'il n'y a pas de salut en dehors de la foi dans la résurrection corporelle, la résurrection physique de Jésus-Christ. Si le Christ se trouvait enterré dans un monument près de Jérusalem, où les millions de touristes qui visitent Israël pourraient le voir et l'adorer, le christianisme serait une fable. L'apôtre Paul a dit: « Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. » 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14, et notez aussi le verset 17. Nous avons l'habitude d'entendre parler de la résurrection à chaque fête de Pâques, et c'est un peu près tout ce que nous entendons. Mais quand les apôtres prêchaient, la croix et la résurrection étaient leur sujet constant. Sans la résurrection d'ailleurs, la croix ne signifie pas grand-chose. Certains pensent que nous ne sommes rien, rien que des os, de la chair et du sang. Après notre mort, rien ne se passe. Nous n'allons nulle part, ou s'il existe un lieu où nous allons, il a des contours si vagues que c'est un jeu de notre imagination, ce peut être n'importe quoi. Le silence peut-elle nous éclairer sur ce point-là? J'ai interrogé, pas rien que moi, beaucoup de serviteurs ont fait de même, ont interrogé des savants sur la vie après la mort physique, et la plupart d'entre eux ont répondu: nous n'en savons rien. La science s'occupe de choses mesurables, utilise des éprouvettes et des formules. Le monde spirituel est hors de son domaine. Beaucoup d'écrivains qui ne croient pas à une existence après la mort remplissent leurs livres de pensées tragiques et de pessimisme. Gore Vidal, Truman Capote, Dalton Trumbo et beaucoup d'autres sont des auteurs pessimistes. Combien différent est le message de Jésus-Christ qui claironne: écoutez bien, parce que je vis, vous vivrez aussi. Saint Jean 14, verset 19. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Nous fondons notre espérance d'immortalité sur le Christ seul et non pas sur nos vœux, non pas sur nos raisonnements ou notre intuition. La Sainte Bible parle de la résurrection de Jésus-Christ comme d'un événement historique, vérifiable par nos sens physiques. Les disciples l'ont vu, ils l'ont vu dans différentes circonstances après sa résurrection. Un disciple isolé l'a vu une fois. 500 autres disciples l'ont vu une autre fois. Quelques-uns l'ont vu séparément, d'autres étaient ensemble. Les uns brièvement, les autres pendant un temps assez long. Les disciples, je dirais tous ceux qui étaient vraiment ceux qui croyaient en lui de tout leur cœur, âme et esprit, l'ont entendu parler. Ils l'ont touché pour vérifier sa réalité physique. Ils ont marché avec lui, ont parlé, ont mangé même en sa compagnie. Ils ont eu la possibilité de l'examiner. La résurrection de Jésus-Christ n'appartient donc pas au domaine des hallucinations ou des fabulations ou du domaine virtuel. Elle a tous les caractères d'un fait matériel démontrable. À la base de notre foi en la résurrection corporelle de Jésus-Christ se trouve un fait historique. Les preuves que nous en avons sont beaucoup plus nombreuses que tout autre événement de cette époque, qu'ils appartiennent à l'histoire religieuse ou à l'histoire ordinaire. La plupart des grands ou des grandes religions ont un fondement philosophique tel que le bouddhisme, l'islam et d'autres. Ils ont été fondés par de fortes personnalités. Seul le christianisme affirme que son fondateur est ressuscité. Abraham, le père du judaïsme, est mort vers 1900 avant Jésus-Christ. Personne n'a jamais dit qu'il était ressuscité. Bouddha a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ et enseigna des principes d'amour fraternel. On pense qu'il est mort à l'âge de 80 ans. Il n'existe pas de preuve, aucune preuve de sa résurrection. Mahomet est mort en 632. Sa tombe à Médine est visitée par des millions de musulmans pieux. Sa ville natale, la Mecque, attire aussi des foules de pèlerins. Pourtant, personne ne parle de sa résurrection. Il existe une théorie de la syncope, de la syncope, qui prétend que Jésus-Christ n'est pas mort, mais il s'est simplement évanoui. Puisque une résurrection n'est pas possible sans mort préalable, cette théorie nie donc la résurrection. Mais les preuves de la mort de Jésus-Christ sont assez nombreuses. Voyez-vous, les soldats, ils se sont assurés de la mort de Jésus et ils décidèrent de ne pas rompre ses jambes, de ne pas les casser pour hâter sa mort, alors qu'ils le firent, ils l'ont fait, pour les deux autres brigands crucifiés à ses côtés. ce sont ses ennemis et non pas ses amis qui ont confirmé son décès. En outre, le coup de lance transperça son côté, on dit même son cœur. Il avait précisément pour but la vérification, vous l'avez bien compris, de sa mort. Un des hommes les plus riches du monde, Howard Hughes, ou je ne sais pas si on prononce Hughes, il est mort récemment. Les circonstances qui ont entouré sa mort sont encore très mystérieuses, et pourtant il était gardé par un groupe de plusieurs hommes. Pourtant, il existe plus de preuves historiques confirmant la mort de cet homme, Jésus-Christ, sur une croix entre deux autres condamnés, que pour n'importe quel autre homme de l'histoire. Wilbur Smith, un théologien biblique, a dit « Nous pouvons affirmer simplement que nous savons plus de détails et que nous les avons même, ces détails, sur les heures, oui, les heures, qui ont précédé la mort de Jésus, ainsi que sur la mort elle-même, et tout cela dans la ville de Jérusalem, ou dans ses environs, que nous n'en connaissons, par exemple, sur la mort d'aucun autre personnage de toute l'Amérique. » Et c'est dans un livre bien détaillé de Josh McDowell et le titre est « Evidence that demands a verdict ». L'évidence qui demande un verdict, page 193. Donc, Jésus fut bel et bien enseveli. Nous connaissons mieux les détails concernant la sépulture de Jésus-Christ et son ensevelissement que ceux concernant tout autre personnage historique. Son corps fut décloué de la croix et fut enveloppé dans un suaire de fin lin et il fut oint de plusieurs parfums. Joseph d'Arimathée, un homme riche, il était disciple secret de Jésus, a eu le courage de réclamer à Pilate le corps du supplicié. Sa demande étant acceptée, il descendit le corps de la croix et l'enveloppa d'un tissu de linge fin. Saint Matthieu, chapitre 27, verset 59. Nous savons que Nicodème, ce chef religieux à qui Jésus avait dit qu'il devait naître de nouveau, apporta des parfums très coûteux, un mélange de myrrhe et d'aloé dont on en a oint le corps de Jésus selon la coutume juive. Le corps de Jésus fut ensuite déposé dans la tombe de Joseph, située dans un jardin. Tous ces événements indiquent clairement que c'est bien le corps de Jésus et non son esprit. Non, pas seulement son esprit, mais tout son corps fut l'objet de cette attention. On ne peut enterrer des esprits immatériels. Or, après la déposition du corps, une grande dalle très lourde de pierre fut placée devant l'ouverture de la tombe et on la scella au moyen d'un sceau officiel. En voulant enlever la pierre frontale, on aurait dû briser le sceau. Or, la loi romaine était terriblement sévère pour ce genre de crime. En outre, pour être certain que les disciples ne viendraient pas pour s'emparer du corps, les Juifs firent surveiller la tombe scellée par des gardes armés. Les ennemis de Jésus prirent toutes les précautions possibles pour empêcher l'accomplissement de la prophétie que Jésus-Christ avait faite de sa résurrection. Ces gardes qui étaient armés n'étaient pas des lâches, oh non, ils étaient sans doute soumis à la discipline assez stricte, la discipline romaine, qui punissait de mort si quelqu'un abandonnait son poste ou même que le sommeil vienne surprendre la sentinelle. Il était carrément mis à mort. Les historiens pensent qu'il y avait 4 sentinelles devant la tombe, bien armées, et il était donc impossible de venir chercher le corps de Jésus-Christ dans la tombe ainsi étroitement surveillée. La tombe vide. Eh bien, Jésus avait prédit qu'il ressusciterait le troisième jour. La terre s'est mise à trembler et les soldats autour de la tombe ont dû trembler aussi, comme également leurs armes. Un ange du Seigneur descendit du ciel, roula la lourde pierre tombale et s'assit dessus. Il n'eut même pas à dire un seul mot et les gardes s'évanouirent de terreur. L'ange parla à Marie-Madeleine et à Marie et ces femmes coururent prévenir les disciples que Jésus-Christ était ressuscité. Quand l'apôtre Pierre et Jean sont arrivés au tombeau, l'apôtre Jean a eu le courage d'y regarder et il a vu que les linges et le suaire étaient soigneusement pliés. L'apôtre Pierre, entrant à l'intérieur, constata qu'il était vide, le corps avait disparu. La résurrection corporelle est donc un fait attesté par des centaines de témoins oculaires. Nous possédons le récit de 13 qui ont vraiment vu les apparitions dans différents lieux de Jésus-Christ et dans des circonstances diverses. Son corps était à la fois semblable et on peut aussi dire dissemblable à celui qu'on cloua sur la croix. Il ressemblait tellement à un corps humain normal que Marie confondit Jésus avec le jardinier qui était tout près de la tombe quand il lui apparut. Et il pouvait même manger, parler et occuper l'espace. Toutefois, son corps n'était pas exactement, on peut dire pas exactement comme un corps normal. Il était, par exemple, capable de franchir des portes closes et de disparaître. Ce corps était donc physique, il faut quand même le dire, mais il était aussi spirituel. Après tout, est-ce surprenant? Comme le dit saint Paul au roi Agrippa, « Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ?» Actes chapitre 26, verset 8. La Sainte Bible, à plusieurs reprises, affirme le fait de la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Saint Luc le dit expressément dans son livre des Actes des Apôtres. Il déclare que Jésus, après qu'il a souffert, que Jésus leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 3. À propos de ces preuves convaincantes, C.S. Lewis écrit « Le premier événement de l'histoire du christianisme, c'est qu'un groupe d'hommes et de femmes attestent, proclament qu'ils ont vu la résurrection. S'ils étaient morts sans convaincre d'autres personnes et sans leur faire croire à cet évangile, aucun des évangiles n'aurait été écrit. Une série d'événements forme donc une longue chaîne d'éternité en éternité. Je répète, une série d'événements forme bel et bien une longue chaîne d'éternité en éternité. Elle comprend quoi ? Elle comprend l'incarnation. Elle comprend la crucifixion ainsi que la résurrection et l'ascension et, sans oublier, le retour. Tout maillon manquant briserait la chaîne. Tout le système du christianisme s'effondrerait si l'on nie la résurrection. Comme le dit du reste saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est absolument vaine, et vaine également votre foi. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 14. Mais ce n'est pas tout. Non seulement la chaîne des événements rédempteurs est brisée si la résurrection n'est pas authentique, mais encore, la bonne nouvelle du salut devient négative, elle devient stérile et elle tombe à plat. La résurrection est donc centrale, elle est essentielle. Saint Paul a écrit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai donc enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que le Christ est bel et bien mort pour nos péchés selon les saintes Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les saintes Écritures. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 4. On peut dire, entretien sérieux a eu lieu un jour entre le philosophe français Auguste Comte avec l'écrivain anglais Thomas Carlyle, et Auguste Comte lui dit qu'il avait créé une religion qui remplacerait celle du Christ. Il lui dit qu'elle ne contenait pas de mystère, car elle était aussi simple que la table de multiplication, c'était tout simplement le positivisme. Très bien, monsieur Comte, fort bien, répliqua Carlyle. Tout ce qu'il vous reste donc à faire, c'est de parler comme jamais homme n'a fait, de vivre comme personne n'a vécu, d'être crucifié et de ressusciter le troisième jour, et de faire croire aux hommes que vous êtes toujours vivant. Alors peut-être votre religion aura sa chance. Aujourd'hui, nous voyons naître de nouvelles religions comme des champignons après une pluie d'été. Je me demande combien répondent aux suggestions de Carlyle à son ami. Nous avons insisté sur l'expérience de la nouvelle naissance. Mais, chers amis, le salut personnel, il est lié directement à la résurrection. Saint Paul formule cette vérité très précisément. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Gloire à Dieu. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Notez Romains, chapitre 10, versets 9 et 10. Je répète, parce que c'est important, c'est en croyant de notre cœur, de notre esprit, qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de notre bouche qu'on parvient au salut. L'Écriture ne peut être beaucoup plus claire. Et pourtant, dans certaines églises, les pasteurs disent croire à la résurrection, c'est-à-dire au fait qu'après la mort, Jésus vécut spirituellement avec Dieu. Et ils imaginent que la résurrection fut simplement et uniquement spirituelle et non pas physique. C'est le message de certains prédicateurs modernes, dont le nombre, à ma grande joie, est heureusement en train de diminuer. Il n'est donc pas surprenant de voir beaucoup de membres d'Église assister aux offices religieux dimanche après dimanche, année après année, sans entendre le vrai évangile dans sa totalité et sans savoir ce que est la nouvelle naissance en réalité et ce qu'elle représente. Ils entendent un évangile tronqué qui n'est donc plus du tout une bonne nouvelle. La résurrection n'a pas été incorporelle ou désincarnée, elle fut vraiment corporelle. Des témoins oculaires ont dit « Nous avons contemplé sa gloire et nous le verrons, car il est apparu, ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ. » Pendant ce court laps de temps, 3 jours, les deux événements de la mort et de la résurrection du Christ ont eu lieu physiquement et non pas symboliquement, et cela de façon tangible et non seulement spirituelle, de façon sous les yeux d'hommes, de chair et de sang. Non pas perçu uniquement dans les hallucinations virtuelles. La résurrection du corps de Christ est aussi la promesse et le garant de notre propre résurrection. Pour le comprendre, eh bien, nous devons savoir que dans la Sainte Bible, la mort affecte la personnalité et le corps. Nous avons déjà parlé des 3 dimensions de la mort. Le corps, lui aussi, doit être racheté de sa condamnation. pour avoir une victoire complète sur la mort. Dieu a dû ressusciter le corps comme le reste de la personne. Il a commencé par le corps du Christ et il accomplira une œuvre similaire pour le corps de tous les croyants. Si lors du jugement, la condamnation à mort est totale, le salut doit également être total et par conséquent, le salut doit être à la fois physique, spirituel et éternel. Évidemment, nos corps ressuscités seront reconnaissables bien qu'ils ne puissent pas être exactement identiques à ceux de cette vie terrestre. Ils seront comme celui du Christ après sa résurrection. Il avait conservé les marques des clous et des blessures aux côtés, mais pouvait passer à travers les portes fermées. Le moment venu, ce corps a pu s'élever vers le ciel dans les airs. Quelle perspective si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui tous ceux qui sont morts. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 14. Jésus a fait tout reposer sur la résurrection des morts. C'est par sa résurrection que son enseignement est prouvé vrai ou faux. Je dois aussi vous signaler, parce qu'on le demande parfois, une personne qui est, comme on dit vulgairement, estropiée, infirme, et dont les membres sont peu, on peut dire, peu agréables à voir, eh bien cette personne ne sera pas, une fois ressuscitée, comme elle était avant, mais elle sera restaurée totalement. Elle sera dans l'ensemble, comment il faut dire, dans l'ensemble de son être, on la reconnaîtra quand même, mais elle sera restaurée totalement, on peut dire, comme un chirurgien ferait aujourd'hui pour changer, améliorer certains aspects de notre corps, visage, etc. Eh bien, ce sera totalement parfait. Mais on reconnaîtra quand même la personne, sauf qu'elle sera absolument parfaite, harmonieuse et merveilleuse. Terminée la déformation, terminée le visage déformé, terminée la chaise roulante. Donc, chers amis, je continue l'étude. Que signifie aujourd'hui la résurrection pour nous, pour vous? Jésus a vécu auprès de toute personne qui lui fait confiance. Et il vit aujourd'hui auprès de toute personne qui lui fait confiance. Donc la résurrection signifie que cette présence est celle d'un Christ vivant. Il a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Saint Matthieu, chapitre 28, verset 20. C'est la garantie du Christ. La vie prend une nouvelle signification. Après la croix, les disciples étaient désespérés. Ils se disaient, nous avions espéré que ce serait le libérateur d'Israël. Saint Luc 24, verset 21. Leur cœur était plein d'angoisse après la terrible tragédie de la mort de leur Messie. La vie n'avait pour eux plus de sens. Mais quand ils ont constaté qu'il était sorti de sa tombe, qu'ils ont vu le Christ vivant, leur vie a pris une nouvelle dimension. Et croyez-moi, ceux qui sont aujourd'hui aveugles ou qui sont sourds et muets ne le seront plus du tout. Ils pourront parler, entendre, parce qu'ils seront totalement restaurés. Et nous aussi, nous avons affaire à un Christ vivant, car il prie pour nous, il intercède pour nous. La Sainte Bible nous dit « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous ». Romains chapitre 8, verset 34. Je répète Romains chapitre 8, verset 34. Ne pensons pas que nos prières ne percent pas le plafond. Le Christ vivant siège à la droite de Dieu son Père. Dieu le Fils a conservé l'humanité qu'il a assumée. Il l'a assumé pour nous sauver. Il vit toujours dans ce corps marqué des traces des clous. Et il est notre grand prêtre. Prions Dieu son Père en notre et en votre faveur. La présence du Christ ressuscité nous donne le pouvoir de vivre jour après jour, et ainsi de le servir. Il a dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais auprès du Père. » Saint Jean, chapitre 14, verset 12. Donc, le corps ressuscité de Jésus est le modèle de nos corps quand nous ressusciterons nous-mêmes de la mort. Mais si nos corps terrestres sont marqués par des maladies, des souffrances, peut-être même des déformations, je l'ai déjà dit, nous aurons donc des corps totalement nouveaux. Quelle magnifique promesse nous avons là. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons également aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, et cela par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Plus besoin de chirurgie plastique. Plus besoin de corriger votre nez ou votre menton ou vos seins. Des milliers de gens aujourd'hui se passionnent pour les prédictions bibliques. La révélation dans la Sainte Bible au sujet des événements passés, présents et futurs est devenu un thème prioritaire dans beaucoup de livres, de sermons et de séminaires. Le retour du Christ, la parousie, devient une réalité de plus en plus étudiée par tous ceux qui cherche à comprendre la Sainte Bible et les événements contemporains. Vous pouvez écouter toute une série sur les prophéties, et cela dans www.bibleexplique.ch. Chers amis, avant de terminer cette étude, la clé de tout l'avenir du monde, c'est la résurrection. Si Jésus n'est pas ressuscité des morts, on ne peut attendre le royaume futur du roi revenu sur terre. Quand les disciples sont restés seuls lorsque Jésus-Christ les quitta, le jour, c'était le jour de son ascension, ils ont entendu les anges qui leur ont promis que le Christ de la résurrection serait celui du retour en gloire. Homme galiléen, est-il dit en Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 11, homme galiléen, pourquoi ? Oui, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Car ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. La résurrection est un événement qui nous atteste le futur retour du Christ. Et il nous y prépare. Oui, Jésus-Christ est bel et bien vivant. La résurrection physique de Jésus-Christ est à coup sûr un élément essentiel du plan de Dieu pour nous sauver, vous et moi. Chers amis, vous êtes-vous donné vous-même au Christ vivant ? L'avez-vous accepté ? Personnellement, une femme a raconté « Hier soir, j'étais seule et j'ai regardé la télévision. Comme je n'avais pas de programme, j'ai tourné le bouton au hasard pour voir une émission annonçant l'Évangile en Allemagne. Et voilà que j'avais en réalité un grave problème. J'étais et je suis menacé, hélas, de mourir. Et je ne sais pas si une opération chirurgicale serait ou sera efficace ou pas. Je préférerais repousser l'intervention car j'étais effrayé terriblement à l'idée que j'étais séparé de Dieu pour l'éternité. Alors je me suis mise à rechercher Dieu, et voilà que cette émission évangélique sur une chaîne allemande, elle m'a enseigné quelque chose de merveilleux. On peut dire du hasard, mais je ne crois pas que c'était du hasard que j'ai tourné le bouton à ce moment-là. Car Dieu m'a vraiment parlé par le message que j'ai entendu. Et pas seulement entendu, j'ai vu l'expression, les sentiments profonds de celui qui annonça ce message. Et maintenant j'éprouve dans mon cœur une grande paix. Si vous vous confiez, chers amis, au Christ ressuscité, s'il devient votre Seigneur et Sauveur, il sera près de vous lors de votre mort et vous donnera de vivre avec lui pour toujours. En raison de la résurrection, vous avez le pouvoir de naître de nouveau. C'est une réalité. Avant de terminer par la prière, je dois vous dire que la mort est souvent imprévisible et, on peut dire, toujours inéluctable. Pour chacun de nous, croyez-le ou pas, est fixé un jour, une heure, une minute où nous cessons d'être physiquement. Comme notre vie est si brève, la Sainte Bible nous avertit, elle nous dit dans Amos, chapitre 4, verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » J'ai eu l'occasion, au cours de ma vie, de connaître beaucoup de gens qui étaient vraiment bien préparés à rencontrer Dieu. Combien ils sont différents de ceux dont la vie est vécue, hélas, totalement sans Dieu. Chers amis, le docteur Bell, lors de son dernier sermon, a dit « La vie est brève. » La Sainte Bible dit que nous devons être prêts à rencontrer Dieu à tout instant. Nous ne savons jamais ce qui nous attend quand nous montons dans notre voiture, que nous sortons de chez nous ou que nous ouvrons les yeux sur une nouvelle journée. Ces jours sont fixés. Tu as compté ces mois, tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir. Et voilà comment le patriarche Job, au chapitre 14, verset 5, reconnaît la souveraineté de Dieu. Jésus-Christ a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui ou avec elle, et lui ou elle avec moi. » Ce sont les dernières paroles que le docteur Bell prononça en public. Il s'endormit ce soir-là chez lui et le lendemain se réveilla dans la présence de son Seigneur. Sa vie était achevée et le cercle refermé. Chers amis, c'est à vous seuls de prendre une décision. C'est une question 100% personnelle. C'est entre vous et Dieu uniquement. Ce n'est pas une question d'église ou de religion. C'est une affaire personnelle. À vous de décider. Et personne ne peut le faire à votre place. Que le Seigneur vous bénisse, car il est mort à la croix pour donner sa vie pour vous et pour moi. Disons ensemble merci. Merci Dieu le Père. Merci Jésus-Christ. Merci pour tant d'amour. Amen. Chers amis, à demain matin pour la suite de cette série. Je crois que ce sera l'étude numéro 20, si je ne me trompe pas. À demain matin donc. Au revoir.